1, 2, 1, 2, 3.
Peux-tu me faire une voix
plus claire? Good morning, Vietnam!
Tonight we present a very warm little story called Kill With Time.
On a un
peu
dans le studio, on laisse voir, on lui met un casque, il parle dans le micro.
Il suffit que tu fermes ta gueule. À toi, je passe à
l'antenne. Ils écoutent, ça va arriver, les voisins.
Et vous écoutez bien Les Décadrés, votre émission de cinéma et d'audiovisuel sur
PFM 99.9.
On a pris une bonne petite habitude là, faut en faire
ouais,
ça.
Ouais,
faut commencer à être rodé.
Il y a une cohésion. Alors, vous êtes bien avec Les Décadrés. Ange.
Oui, c'est moi.
Ça va bien?
Mais tout à fait.
Antoine.
Oui.
Ça va bien?
Je t'en pose des questions. Oui, ça va super bien. Et toi, ça va?
Ça va bien, oui.
T'as pas demandé à la régie si elle allait bien?
Bah, la régie, c'est toi, Ange.
Ben non, l'ordinateur et tout. Où la technologie est vivante.
Donc,
allez, ça commence, ça fait déjà des blagues bien
voilà.
Comme d'habitude, changeons pas les habitudes.
Ange, Antoine et moi-même Benjamin, Les Décadrés sur PFM 99.9. Et Ange va commencer l'émission avec une chronique sur un film de Robert Zemeckis.
Tout à fait.
Seul au monde.
Donc n'est-ce pas le rêve d'un grand nombre d'entre nous, se retrouver seul sur une île déserte, seul à profiter du soleil,
non,
de vivre sa vie comme
si,
on l'entend.
S'il y a Clara Morgan, moi je veux bien.
Ah bah après ça dépend de qui avec toi sur l'île déserte, hein. Ça j'y peux rien, mais t'as pas vraiment le choix je pense.
C'était une blague affreusement lourde,
oui,
je m'excuse.
On se donne quand même une très belle image, même avec Clara Morgan, une très belle image de cette vie solitaire au milieu de nulle part.
Non, en plus en vrai je chante mal. Je suis en forme hein, aujourd'hui, les gars, hein. Faites gaffe. Hein.
T'es en train de me foirer.
Ouais, en train de foutre en l'air.
Ne me laissez pas faire.
Je disais, je reprends du coup cette vie solitaire au milieu de nulle part, coupée de tout. Mais ça, c'est quand on le choisit et qu'on le prévoit à l'avance. Ce qui n'était pas du tout le cas de Chuck, ce parfait employé de FedEx, réglé comme un coucou sur les montres du monde entier, allant de la Russie aux États-Unis, en Europe, enfin bref, partout dans le monde pour son travail. Il a la belle vie, une belle femme, un bon travail, des bons amis, mais un soir, c'est le drame. Bah oui, vous vous attendiez à quoi? Le film s'appelle Seul au monde, vous vous attendez pas à un film à l'eau de rose tout de même. Bah, un soir, en pleine nuit... J'ai loupé ma ligne. Un soir, en pleine nuit, son avion se crache en plein milieu de l'océan. Ils étaient quatre dans l'avion, accompagnés de centaines de colis, et il se retrouva seul sur son canot gonflable de sauvetage.
Attends, je fais les bruitages.
Vas-y, vas-y.
L'océan.
On attend un peu. Alors, imaginez Antoine et Benjamin se mettre de l'eau dans la bouche et faire des bruits immondes. Donc voilà, vas-y, continue. Et il dériva jusqu'à atteindre une île déserte, bien entendu, sur laquelle il passera, attention, il passera 1500 jours.
Ah, je vais passer 1500 jours sur une île déserte.
Seul au monde.
Seul au monde.
Seul au monde.
Seul au monde.
C'est là le titre dont je vais vous parler, vous l'avez compris, bien sûr. Un film que je qualifie de beau, touchant, effrayant. C'est bizarre quand même, effrayant. Donc un film avec un Tom Hanks remarquable dans le rôle principal. J'ai envie de dire en même temps, c'est Tom Hanks. Même en image de synthèse, il déboîte ce type-là. Mais bon, passons. Seul au monde n'est pas juste un drame, c'est une épopée. Vous ne regardez pas ce film uniquement pour vous lamenter sur le sort de ce pauvre personnage. Vous vivez son aventure. C'est une découverte de la vie en solitaire avec un Robinson Crusoe des temps modernes. Bien sûr, ne perdez pas le fait que c'est un film. Ainsi, est-ce que l'on réagirait exactement comme il le fait? Je n'en sais rien. Mais ils ont quand même fait un personnage futé. Plus futé en tout cas que les participants de Koh-Lanta ou de The Island, qui eux savent très bien où ils vont et ce qu'ils doivent faire. Nous suivons donc les poupées de... Les poupées. L'épopée de cet homme seul. Nous sommes placés en tant que spectateurs simples, ce qui est très important pour cerner le personnage de ce film dans son ensemble. Nous le voyons évoluer physiquement et mentalement, sans avoir le besoin de se retrouver dans sa tête. Et c'est là le côté magnifique de la réalisation, à mon sens. Je ne peux pas trop en dire pour éviter de gâcher le plaisir de ceux qui ne l'ont pas vu, mais petit à petit, en voyant le temps s'écouler, on sent qu'il a le besoin de parler à quelqu'un, même si c'est un ballon. Donc je veux dire par là qu'au final, on ne voit pas en lui une folie. Comme on pourrait le voir dans 127 heures dans lequel James Franco se voit sur un plateau télé racontant son histoire, là on n'a pas besoin de voir ce qu'il imagine, on ressent son besoin. On a même l'impression qu'il se force au début. Il faut dire que c'est un personnage qui parle beaucoup en principe, et c'est aussi ce qui nous permet de mieux comprendre ses actes par la suite jusqu'à la fin du film. De plus, les plans sont juste magnifiques, on découvre des paysages énorme sur cette petite île qui semble paradisiaque. Celle-ci devient un monstre rongeant de l'intérieur Chuck. Donc si vous souhaitez partir à l'aventure sur une île déserte, eh bien faites-vous une petite idée de la survie en regardant d'abord Seul au monde. Mais surtout n'oubliez pas que c'est de la fiction. Et si ça ne vous tente pas, partez pour une autre aventure, mais pour le futur, puisque le grand réalisateur de ce film n'est autre que Robert Zemeckis, le réalisateur de Retour vers le futur, mais aussi de Forrest Gump.
The Flight.
Voilà, tout à fait aussi. Comme quoi il apprécie Tom Hanks.
Déjà vu.
Forrest Gump, attends, il a gardé le même acteur pour les deux films d'émotion qui sont vachement bien, et surtout qu'il sait se diversifier puisque la plupart de ses films sont de grandes réussites. Donc si vous ne le connaissez pas encore, courez vite vers sa filmographie. Et pour le plaisir, on va vous laisser avec la musique présente, la musique prenante, je voulais dire, de Retour vers le futur.
Composée par Alan Silvestri.
Tout à fait.
Vous écoutez les décadrés sur PFM 99.9. Oui. Et je vais très rapidement corriger Antoine. Non, déjà vu n'est pas de Robert Zemeckis, mais de Tony Scott.
Ouais, je sais, je me suis laissé aller par ma fougue.
Je te pardonne parce que, après tout, c'est toi qui vas passer maintenant avec ta chronique sur.
Une fiancée pas comme les autres.
Merci de le dire avec tant de.
J'ai l'impression qu'on prend tous des voix assez spéciales pour
des
les chroniques.
Des voix,
si vous voulez, je peux faire cette partie de chronique avec une voix comme ça.
Ça risque d'être très long.
Ça risque d'être très long, effectivement.
Oui, vas-y, vas-y.
Alors, bon, plus sérieusement, alors oui, je vais vous parler du film Une fiancée pas comme les autres. Le titre original, c'est Lars and the Real Girl. Et donc, c'est un film de Greg Gillespie, et qui est basé sur un scénario de Nancy Oliver, sorti en 2007. Greg Gillespie qui a fait, à part, enfin, en fait, je ne connais pas beaucoup de ses films, à part Finest Hour, C'est le seul que je connais.
Ah ouais.
Du coup, les autres films me sont totalement inconnus. Alors, nous retrouvons à l'affiche de ce film le magnifique, le puissant, l'impressionnant Ryan Gosling dans la peau de Lars, un homme timide, introverti et plutôt solitaire. Et le film se concentre donc sur Lars et son histoire d'amour avec Bianca, une superbe mannequin brune et pulpeuse. Et bien sûr, le mot mannequin est à prendre au pied de la lettre, puisque Bianca est une poupée moulée que Lars affirme avoir rencontré sur internet. C'est ainsi qu'à soir, Lars décide de présenter Bianca à son frère Gus et sa belle-sœur Karine. La stupéfaction est grande et bientôt c'est toute la petite ville du Middle West qui se retrouve concernée par cette histoire. Oui, ça a l'air drôle et ça l'est. La découverte de ce film fut pour moi déjà une immense surprise. Je suis tombé dessus complètement par hasard.
On a perdu Ange.
Non, mais j'ai imaginé la petite souris, moi.
Lars et Bianca.
Bernard et Bianca, moi j'ai imaginé.
Ah ouais, d'accord. Ah ouais, ça fonctionne.
Ça m'a mis une drôle d'image en tête, hein, vous
ça
le dis tout de suite.
Ça fonctionne aussi. Bon, donc c'est le hasard qui m'a fait tomber dessus, mais également parce qu'il s'agit d'un film extrêmement drôle, touchant et émouvant. Et émouvant, pas émouvant, parce que ça ne veut rien dire émouvant. Et c'est avec le cul entre deux chaises qu'on avance dans l'histoire de ce film. Faut-il rire de cette situation ? Faut-il se sentir dérangé ? Où se situe la limite entre fiction et réalité dans l'esprit de Lars ? Cependant, c'est avec une douce amertume que nous suivons cette fable sur la tolérance. Bien sûr, vous pourrez faire toujours comme moi dans un premier temps lorsque vous regarderez le film, c'est-à-dire afficher un sourire cynique face à tout ce déchaînement de bonté humaine digne des plus grands films à la morale de neuneux, mais toujours est-il que dans ce film, et ça fonctionne, ça marche plutôt bien. Un peu d'amour, de solidarité et de compassion dans ce monde de brutes ne fait pas de mal, bordel de merde. Pardon, excusez-moi. Une réalisation lente, mais propre, est en parfaite synchronisation avec la mise en scène du jeu et de la musique. C'est beau, simple et plein d'espoir. Et en fait, c'est cette simplicité du film qui le rend si touchant. Une simplicité qui est en fait représentée avec brio par Ryan Gosling, qui brille dans un rôle vraiment en demi-teinte. Parce qu'on a un côté, le côté comique du personnage qui est bourré de faciès, qui a un faciès assez particulier. Il a pris du poids pour ce rôle, il a une moustache assez ignoble, il se coiffe, c'est un mec qui prend pas soin de lui, il s'habille un peu n'importe comment, et en même temps il a des petites mimiques assez rigolotes, mais également des phases beaucoup plus psychologiques dans le film où on fait des révélations sur le personnage de Lars qui nous explique les raisons de cette démarche. Pourquoi avoir trouvé une fiancée entre guillemets sur internet en poupée plastique, en fait. C'est un peu la question qui est posée durant le film, et en fait c'est toute une approche psychologique du personnage qui est faite avec un psychologue, avec ses rapports familiaux dans lesquels il y a très peu de communication et qu'ils avancent au fur et à mesure. Et Donc ce côté comique et psychologique. Et d'ailleurs, je me permets de répondre à certaines critiques que j'ai vues sur internet en faisant des recherches, qui considèrent qu'entre guillemets, que ce n'est pas difficile de jouer sur la corde sensible avec ce film et de faire des révélations sur le passé d'un personnage inconnu pour justifier son trouble. C'est un truc que j'ai vu mot pour mot.
Attends, répète.
En gros, en même temps, ce n'est pas difficile de jouer sur la corde sensible et de faire des révélations sur le passé d'un personnage inconnu pour justifier son trouble.
Ah oui, ok.
Et moi je trouve que penser ça, c'est vraiment une erreur d'analyse. Et c'est pas que pour ce film, hein, c'est pour tout l'ensemble des films. Enfin, descendre aussi bas dans l'analyse, pour moi je trouve ça limite criminel, c'est n'importe quoi.
Non, mais après c'est vrai qu'il y a un côté un peu cliché, le mec qui arrive, c'est un inconnu dans une ville, il a un passé. Fin...
C'est pas un inconnu dans une ville, c'est juste...
Non mais je te parle de la figure banale, un peu générale qu'on trouve dans beaucoup d'œuvres.
Oui, dans beaucoup d'œuvres, mais justement en fait dans ce film, pour moi la personne qui a fait ce commentaire n'a pas... Selon moi, n'a pas vu le film, parce qu'en fait, justement, le film aborde la question des non-dits familiaux, en fait. En fait, tout ce que Lars est en train de faire vivre aux gens de sa ville, et ce qui se fait vivre aussi, vient inconsciemment de plusieurs traumas qu'il a eu par le passé, et aussi du fait que son frère l'a un peu abandonné quand il était plus jeune, et c'est toutes ces questions du non-dit, en fait.
Je suppose aussi que c'est pas tant un mec qui débarque dans le récit. télé-récit qui filme le quotidien du mec.
C'est ça. En fait, voilà. en gros, la réalisation fait qu'on arrive à un moment clé de sa vie, le moment où justement il va amener Bianca dans sa vie. Mmh. En fait, il est là depuis des années, en fait, hein, avec son frère et sa sœur. Hein. Il vit dans un garage à côté de chez eux parce qu'il veut pas, il a pas voulu emménager chez eux. En fait, on arrive vraiment, je pense, on doit arriver quelques années après ça, tout ça, justement, en fait. Mmh. Et donc, au final, donc, on a tous. Enfin, moi, ça me fait penser à toutes les histoires familiales. On a tous des histoires familiales qu'on préfère taire, des événements personnels qu'on enferme à double tour dans son inconscient. Et en fait, dans ce film, c'est l'amour, l'amitié, la famille, le travail, la mort qui sont mis en avant. C'est un film sur le quotidien. Et une fiancée pas comme les autres, en final, dresse le portrait d'un homme sensible, pas comme les autres, justement, et qui, à sa manière, va apprendre la vie, mais va également repousser les limites de la tolérance au sein de sa famille et de la petite ville dans laquelle il vit. Et on pourra s'y voir, enfin, je vous conseille de voir le film plutôt pour voir si l'histoire d'amour entre Lars et Bianca les mène quelque part. Et donc, pour conclure ce chapitre de l'émission, une fiancée pas comme les autres, eh bien c'est bien plus qu'une simple histoire, c'est un film qui a l'image de cette fiancée poupée, moulée, plastifiée, qui n'est pas comme les autres. Et on vous abandonne, enfin on vous laisse sur un morceau de Nat King Cole qui s'appelle « Love ».
L is for the way you look at me. O is for the only one I see. V is very, very extraordinary. E is even more than anyone that you adore can love. Is all that I can give to you. Love is more than just a game for two. Two in love can make it. Take my heart and please don't break it. Love was made for me and you. Is for the way you look at me. O is for the only one I see. V is very, very extraordinary. E is even more than anyone that you adore can love. Is all that I can give to you. Love is more than just a game for two. Two in love can't make it. Take my heart and please don't break it. Love was made for me and you. Love was made for me and you. Love was made for me and you.
Vous êtes toujours en compagnie de vos décadrés préférés sur PFM 99.9. Alors nous avons eu Ange,
oui,
qui a fait sa petite chronique.
C'était moi.
Il y a eu moi qui a fait ma petite chronique. Et maintenant, on attend avec impatience le tour de Ben, qui ne va pas nous parler d'un film, mais plutôt d'une société de production, n'est-ce pas?
Oui, la DEFA.
La DEFA, la DEFA Fofa.
Et là, les gens se disent, mais c'est quoi la DEFA?
La DEFA Formation.
Non.
La défaillance.
Non, si je vous dis que ça a été le Hollywood allemand, ça vous... allemand Est, ça vous dit rien?
Non,
pas du tout.
Alors, je vais vous en causer un peu aujourd'hui.
Oui, parce que sur les décadrés, on apprend aussi des choses intéressantes. Hein.
On dit pas que des conneries.
Voilà. On fait pas que des blagues.
Merci, Benjamin.
Alors, la DEFA, ou la Deutsche Film AG, est créée en 1946. Donc, la DEFA, qui a d'ailleurs fêté ses 70 ans cette année. Et la compagnie donc, cinématographique de l'Allemagne de l'Est, qui a été établie comme la République démocratique allemande en 1949, vous vous en souvenez, Donc oui. C'est le côté allemand qui est sous le contrôle de l'URSS après la défaite de l'Allemagne nazie en 1945.
J'y étais, hein.
Oui, merci.
C'est pas très drôle. La société cinématographique reprend les ateliers de l'UFA, donc qui est l'Universum Film AG, dans le quartier de Babelsberg de Potsdam.
C'est pas l'usine de films amateurs ?
Non. Alors, je vais expliquer que justement l'UFA, c'est la société de cinéma allemande créée en 1917,
ouais.
nationalisée par les nazis pendant...
Ah, mais oui, ça me disait bien quelque chose, effectivement.
Donc pendant les années 30, puis dissoute en 1945 par les alliés dans leur entreprise de dénazification.
Oui.
Vous en souvenez. Son histoire ne s'arrête pas là, mais notre parcours sur la sienne s'arrête ici. Donc Cyril Buffet, écrit justement à propos de la défunte DEFA, histoire de l'autre allemand, cinéma allemand, chez les éditions Cerf, page 11. Et là, j'ouvre les guillemets, je fais le signe. La DEFA met durant toute son existence l'accent sur l'antifascisme, ce qui confère à sa production une cohérence exceptionnelle. L'antifascisme constitue le fondement même de la RDA, principale source de la DEFA, de la RDA, principale source de son affirmation.
Voilà. Tu sais quoi, je propose qu'on arrête l'émission, qu'on recommence depuis le début, comme ça...
c'est rare. C'est donc un cinéma animé par une lutte idéologique qui est aussi une doctrine de l'État, vous avez compris ?
Oui.
Cet antifascisme est aussi une arme de propagande. Elle sert à soutenir la domination du Parti communiste et donc de l'URSS sur l'Allemagne de l'Est. Et elles justifient leur système, leur contrôle. Mais comme le note Cyril Buffet, donc même page, il serait néanmoins injuste de réduire la production de la DEFA seulement à un art de la propagande. Même si nombre d'entre eux sont des commandes passées par le régime, les films est-allemands, dont certains sont des œuvres artistiques de grande qualité, recouvrent une large diversité qui exprime les intérêts et les sensibilités de leurs auteurs. Il continue, malgré les difficultés matérielles, les incessantes interventions politiques, Les longues procédures d'élaboration, la DEFA a été un lieu exceptionnel réunissant des professionnels et des amoureux du cinéma, des scénaristes imaginatifs, des techniciens inventifs, des comédiens talentueux, oui la phrase est longue, des réalisateurs exigeants. Et page 12 y continue, donc c'est un peu après, avec ses engagements, ses contradictions, ses crises, ses défis, ses blocages, ses ambitions, ses réussites et ses échecs. Oui, ces phrases sont très longues.
Ouais, c'est ma famille, mes amis, mes amours, mes emmerdes.
La DEFA a été à l'image de la RDA. Elle demeure la mémoire visuelle d'un pays disparu et d'une époque révolue, une mémoire vivante, car elle est une passerelle entre le passé et le présent, entre l'Est et l'Ouest, entre deux cultures englobant des idéologies antagonistes, mais puisant à une source commune. Je ferme les guillemets. C'est-il pas beau ?
Ben si.
Si, je trouve ça magnifique. Merci Cyril Buffet. Alors, il est intéressant de noter que l'auteur parle de la DEFA au passé. Mm-hmm. C'est vrai, est-ce que la DEFA existe encore aujourd'hui ?
Bah oui, est-ce que la DEFA existe encore, Benjamin ?
C'est une question intéressante.
Et ben la DEFA n'est plus. Oh,
la DEFA n'est plus, Ange.
Alors, après la chute du mur de Berlin
elle
en
a défailli.
1900... Après la chute du mur de Berlin en 1989 et les changements politiques qui adviennent la même année et puis en 1990, la DEFA est placée sous administration fiduciaire le 1er mars 1990.
Ah ouais, carrément.
Ouais, carrément. Elle devient même privée le 1er juillet de la même année, puis est vendue le 25 août 1992. Qui est en fait la date de son avis de décès.
En fait,
quoi.
Ils se sont fait déchiqueter de l'intérieur.
Ouais,
quoi.
Enfin, ouais voilà, ouais. C'était.
Réduit à néant.
La DEFA a très vite disparu. Mais ils ont quand même.
Ils ont brûlé les bobines ou...
Non. Il y a même eu des films jusqu'en 92, la dernière année.
Donc en fait, ils ont laissé certaines productions encore en cours.
Bien sûr. Ouais.
D'accord, ouais. Bon.
Mais ce qui est formidable, c'est qu'avec la chute du mur de Berlin, y a eu beaucoup de films qui ont été censurés. Forcément, par le pouvoir politique, et ils ont pu être diffusés notamment lors de la Berlinade de 1990, entre le 9 et 20 février. Et combien a produit de films la DEFA ?
Sachant que je ne connaissais pas avant le début de l'émission,
au
hasard, je vais dire, ils ont produit plus de 300 films.
Alors, la DEFA a produit entre 1946 et 1992 plus de 700 longs métrages.
Putain !
Et plus de 500 téléfilms.
Pas mal.
Donc ça, c'est la source. Ma source, c'est Arte pour ça.
Ouais, non, mais c'est assez costaud. Ouais. Je veux dire, ils ont de l'actif, quoi.
Ils ont de l'actif.
Très actif.
Enfin, ils avaient.
Ouais. Il faut...
ils ont été désactivés. Hein.
Apparemment, ils auraient même doublé plus de 8000 films.
Ils ont été défacés.
Non.
Non, ça par contre, non.
Alors, si le sujet vous intéresse, je vous conseille de trouver et lire le livre de Cyril Buffet, qui était cité dans la chronique, des fans des FA. Et aussi Arte, et là c'est intéressant, a lancé cette année une rétrospective sur la DEFA,
ouais,
à l'occasion de ses 70 ans, et vous pourrez trouver sur leur site quelques noms de films, donc Arte dit être des grands classiques ou des films emblématiques, et des titres de films documentaires sur le sujet. Et je pense que ça peut être très très bien pour découvrir et s'initier à ce sujet.
Hein. Oui, bien sûr.
Et pour les fanas de la radio, vous pouvez aussi trouver gratuitement sur le site de France Culture les entretiens de Godard et Noël Simsolo. Et justement, la DEFA y est évoquée et l'histoire du cinéma allemand pré-années 50 y est discutée. Voilà.
C'est vachement intéressant.
Bah ouais, bah
j'irai voir du coup. Merci,
bah oui,
Benjamin.
Merci, Benjamin.
Et bah de rien.
Parce que tu vois, ça fait du bien de parler de choses intelligentes pour un coup dans cette émission. Et on pourra pas nous dire qu'on fait de la DEFA formation. Voilà.
Oh, c'était lourd.
J'ai essayé de la peser tout à l'heure, mais personne n'a écouté.
Là,
mais... Les auditeurs l'auront
défacé,
entendu.
Ça quoi. Passe pas, tu vois. Non, ouais, bien, je suis vexé du coup.
Non, c'était triste.
Avec ma chaise grinçante, je m'en vais.
Et bah du coup, c'est tout pour cette émission.
On a encore du temps.
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 Oui.
Bah moi, j'ai envie de faire un petit plaisir et nous balancer en fait une musique qui est belle.
Ah bah ce serait bien.
Pour clôturer cette émission.
Celle de Seul au Monde.
Celle de Seul au Monde.
Ah oui,
magnifique.
Quand même, on va finir sur une belle musique.
Parce que oui, je l'ai quand même dit à Ange pendant que vous l'entendiez pas, mais je dis à Ange.
Ouais,
ouais, mais la musique est vraiment trop belle.
Ouais, c'est vrai. Ouais, bah oui, elle est belle. Hein, mais j'avais envie de me faire un petit plaisir aussi avec Robert Zemeckis.
C'est magnifique.
Parce que bon, ça, on en parle.
Et bah donc, c'est sur cette note joyeuse.
Tout à fait.
Que nous vous disons au revoir, chers auditeurs.
Et à très bientôt.
Et surtout. Qu'on vous dit aussi, oui, à très bientôt, à la semaine prochaine, les décadrés sur PFM 99.9. À 14h30
Mixcloud
et sur notre Mixcloud et notre page Facebook.
Tout à fait.
Ciao.
Salut.
Ciao.